En fait, on est un peu les pieds pris dans la glaise, on sait plus trop comment faire les choses. Et puis, il y a un sentiment un peu de panique, quoi. Enfin, moi, j'ai clairement vu des speakers opérationnels en entreprise qui prenaient la parole lors de tables rondes, qui avaient limite la goutte de sueur qui leur coulait le long de la tempe, en mode, ben, en fait, on ne sait pas trop comment gérer le sujet, quoi.
Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Aujourd'hui, nous allons partir aux États-Unis. Nous allons partir dans une conférence qui est, on ne va pas dire non connue ou méconnue ou sous-cotée. Ce n'est pas vrai du tout, au contraire, on est au cœur de la hype. Mais c'est vrai qu'elle est peut-être moins connue que certaines autres conférences. Et pourtant, ça fait bien longtemps qu'elle existe, c'est SXSW, de son petit nom South By, Southwest, ou South By, pour les plus intimes qui y sont allés plusieurs fois. C'est un lieu particulier. Dans lequel, une conférence très particulière, très orientée, entertainment, musique, divertissement, médias, mais pas que, bien sûr, digital. Cette année, il y avait une délégation française, la French Crew, qui s'est dit qu'il fallait qu'ils aillent sur place et qu'ils nous racontent un tout petit peu ce qu'ils avaient vu, tels des oncles d'Amérique et des tantes d'Amérique, puisqu'il y a des hommes et des femmes dans ce collectif qui est mené par Marion Breleux. Nous avons aussi Emmanuel Fraisse, nous avons Arnaud Winter et Ronny Turiaf. Et nous en avons deux parmi les quatre aujourd'hui, les deux premiers que j'ai cités, Marion et Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Mettez-vous d'accord, Marion. Bonjour, bonsoir. Hein. C'est ça, c'est le décalage horaire.
Ouais, c'est ça.
Vous n'êtes pas encore complètement remis. Hein. Elle aurait voulu rester à Austin. Oui, alors effectivement, voilà, SXSW, ça se passe à Austin. Pour ceux qui n'y connaissent rien, qui en ont vaguement entendu parler, qui n'y sont jamais allés, vous diriez que c'est quoi SXSW, hormis le fait que c'est un ovni?
C'est une conférence qui est... Déjà, c'est pas une conférence, c'est un festival. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne bien le tempo, parce que c'est à la fois des conférences, des premières de cinéma, des spectacles. Donc, c'est là où convergent tous les créatifs, les techs, et les penseurs du futur, quelque part, quoi. C'est un endroit qui est assez difficile à décrire, puisqu'il y a, en général, entre 2 et 300 000 visiteurs qui parcourent les rues d'Austin et les salles de conf et les salles de concert.
Moi, je considère vraiment ça comme une expérience. Ça fait plus de 10 ans que j'y vais. Et c'est un événement qu'on ne peut pas vivre seul. La ville Austin est aux couleurs du SXSW. Il y a des animations tous les jours. Potentiellement tous les jours, les stands changent. Des conférences ont lieu dans des dizaines de lieux différents. Il y a des centaines de conférences en même temps. C'est très, très surprenant. Ça grouille de partout, en fait. Donc, c'est vraiment une expérience à vivre. Je ne connais pas de festival ayant d'équivalent dans le monde de cette acabit.
Alors ça dure donc plusieurs jours, la ville est entièrement immergée aux couleurs de SXSW, donc c'est compliqué d'arriver à tout suivre. Cependant, vous avez quand même réussi à nous faire une synthèse que je vous pousse, chers auditeurs, à aller regarder, à lire sur le site de lareclame.fr. Vous cherchez SXSW sur le site de la réclame ou sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez l'article qui s'intitule SXSW 2024 face à l'IA. Les entreprises en pleine gueule de bois. Alors, c'est-à-dire, pourquoi en pleine gueule de bois? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, par rapport aux autres années, puisque Emmanuel, Marion, ça fait plusieurs fois que vous y allez. Emmanuel, tu l'as dit, ça fait plus de 10 ans. Vous avez senti une vraie différence? Emmanuel, tu disais que c'était aux couleurs de la ville, mais est-ce que cette année, les gens, justement, les entreprises en avaient vu un peu de toutes les couleurs?
C'était moins flamboyant, effectivement, que les années précédentes. Les entreprises en avaient vu de toutes les couleurs. On a vraiment considéré qu'elles avaient la gueule de bois après avoir bu trop de cocktails à base d'IA et d'incertitudes internationales entre les guerres, les tensions, le protectionnisme et le climat. On était post-truc, en fait. Les deux dernières éditions étaient différentes. Donc 2022, c'était vraiment autour du Web3, NFT, Metaverse. Donc là, on était dans la grandiloquence, c'est génial, le monde va changer. Ça semblait creux, en revanche, hein, pour être très honnête, on sentait que ça allait retomber. 2023, c'était l'IA. Là, on sentait, oulala, il y a un point de bascule fort. Et maintenant, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est complètement volatile, incertain, complexe et ambigu. Il est vica. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que les entreprises sont en train de... Elles sont sous tension. On sait qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Donc, par quel bout elles prennent le sujet, c'est très variable, en fait. Et il y en a très peu qu'on a vu vraiment à la pointe de ce qu'il fallait faire, ou en tout cas à la pointe de l'action.
Marion, tu as le même sentiment de gueule de bois, de c'est compliqué?
Ouais, clairement. En plus, moi, j'étais pas venue depuis 2019, donc j'ai vraiment vu la différence entre effectivement le presque ce côté hystérique qu'il pouvait y avoir lors des étudiants que j'ai fait précédemment. Moi, a posteriori, j'ai même l'impression qu'on était en descente collective, quoi. C'est-à-dire que il y avait ce côté où merde, en fait, on est un peu les pieds pris dans la glaise, on sait plus trop comment faire les choses, et au final, il y a peu de use cases sur lesquels on peut, en tant qu'entreprise, se projeter. Et puis il y a un sentiment un peu de panique, quoi. Enfin, moi j'ai clairement vu des speakers opérationnels en entreprise qui prenaient la parole lors de tables rondes qu'on appelle les panels à Austin, qui avaient limite la goutte de sueur qui leur coulait le long de la tempe en mode ben, en fait on ne sait pas trop comment gérer le sujet, quoi.
Alors, justement, qu'est-ce qui leur fait peur? C'est quoi c'est quoi la panique? Ils ont peur de rater le train, ils ont peur de dire qu'ils vont prendre le train dans la figure parce qu'ils n'ont peut-être pas, ils ne se sont peut-être pas transformés assez vite. La fameuse transformation digitale, transformation numérique des entreprises, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on en parle. Donc, ils se disent qu'ils ne vont pas assez vite. Enfin, c'est quoi cette peur, cette sensation? Est-ce qu'il n'y a pas non plus un peu une sorte de peur-panique qui est auto-alimentée?
Je pense clairement. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir des gens un peu comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. C'est-à-dire que, et je pense qu'effectivement, il y a plus la peur de se prendre le train dans la figure. C'est-à-dire que ça va tellement vite, c'est tellement difficile à appréhender au-delà de, tu vois, du prompt. Et même ça, on sent que c'est pas simple. Et tu as quelques chiffres qui ont été donnés par quelques speakers clés qui posent un peu comme des bombes au milieu de la pièce. Tu as notamment Yann Bicraft qui a fait une keynote absolument folle et qui disait 45% des CEO disent qu'ils ne croient plus à la viabilité de leur entreprise si la technologie continue à aller à cette vitesse. Donc c'est vrai que c'est il y a un côté un peu frozen, quoi, où les gens se mettent sur arrêt en mode dans quelle direction on doit aller, quoi.
Marion a parlé des pieds dans la glaise. Effectivement, on a vu des gens qui avaient beaucoup les pieds dans la glaise, mais pas la tête dans les étoiles. Donc en fait, ils ne se donnaient pas d'air. Et je parlais de cocktail tout à l'heure, je peux parler de buffet à volonté aussi. C'est qu'ils ont bouffé du digital. Et là, ils commencent à comprendre le digital. On dit, bah non, tu vas te prendre l'IA et la data. Tiens, tchla! Et donc, c'est un peu barbare. Et donc, si tu n'es pas bien ancré, si tu ne sais pas quelle est ta raison d'être, si t'as pas des gens qui ont des soft skills développés, une vraie agilité, t'as les pieds dans la glaise, et puis la glaise, elle est un peu lourde. Donc c'était une édition très paradoxale, qui en fait ouvre beaucoup de perspectives pour la suite, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des lames de fond qui arrivent, des tsunamis qui arrivent autour de l'IA, quand on parle du volet technologique, parce qu'il y a d'autres choses aussi au niveau sociétal à imbriquer dans les changements. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté pieds dans la glaise, buffet à volonté. Il y a un truc qui est on va où quoi. C'est hyper intéressant. Il y a un côté boussole qui manque à beaucoup. Et on s'est rendu compte aussi que les choses allaient tellement vite dans les entreprises que l'entreprise parlait moins qu'avant. C'est-à-dire que ceux qui font ça tranquillement dans leur coin, développent leurs événements spécifiques pour leur écosystème. Et les autres, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des vrais insights comme on avait il y a quelques années où il y avait beaucoup plus de partage, on va dire, d'informations. Là, l'IA, ça va tellement vite, c'est à la journée. On en parlait avec Marion tout à l'heure. En marketing, on disait dans les années 2000, quand un marketeur est congelé 6 mois, quand il revient, il ne comprend plus rien de ce qui se passe à cause du digital. Et moi, j'ai dit, maintenant, avec l'IA, c'est 6 semaines. Si tu rates 6 semaines, en tant que marketeur, tu es un peu embêté. Et Marion a ajouté, non, 6 jours. Je comprends effectivement. Ça s'est compressé énormément par rapport à ce qui est possible de faire en peu de temps maintenant.
Alors, peut-être préciser quand même, on parle beaucoup d'IA, mais en fait, c'est l'IA générative qui met le feu aux poudres, parce que l'IA, c'est un truc que font depuis 20 ans pas mal de boîtes quand même. C'est particulièrement l'IA générative qui met le feu aux poudres, puisque d'un seul coup, c'est l'IA pour tous. Ou tout au moins, c'est la possibilité d'avoir accès à des modèles extrêmement performants en connectant ces bases de données, pour faire très simple, à des moteurs existants, des LLM, que ce soit ceux d'OpenAI, de Mistral, de Claude ou autres. On est bien là-dessus, hein. On est très clairement sur ce feu aux poudres.
Absolument. En revanche, c'est super intéressant ce que tu dis parce que les entreprises confondent IA et IA générative. Et donc le problème, c'est que quand il faut intervenir des gens en externe, des doueurs, on va dire, en IA, ils font venir des gens qui sont des doueurs en IA générative. Et après, ils disent, allez, il faut une stratégie IA générative. Non, il faut une stratégie data et IA dans laquelle tu mets la stratégie IA générative. Et c'est vraiment une confusion importante. Donc on est encore en cette phase de pédagogie pour éviter que les entreprises prennent trop les pieds dans le tapis.
Alors, est-ce qu'on est pour vous dans une situation qui est le. Vous vous rappelez, après le Covid, on a parlé du new normal. Est-ce que maintenant on est dans le never normal? Donc, autrement dit, c'est le bordel, tout le temps, constamment, et le normal, ben, on ne sait plus ce que c'est. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au manque de boussole, Emmanuel, est-ce que Marion, tu as cette sensation?
Ouais, clairement. Et je t'avoue que moi-même, j'ai eu des moments tu vois, de pic de stress, en fait, pendant ce festival. Parce que, autant, tu vois, moi, j'ai un souvenir très précis du passage de la transition numérique ou de la transformation digitale. Dans les salles de formation de la boîte dans laquelle j'étais, on avait des gens limite en larmes qui s'apercevaient que, bah, en fait, leur métier était devenu obsolète et qu'ils savaient plus comment opérer leur job. Mais pour autant, c'était pas très compliqué de les amener à utiliser les outils qui étaient en gros à l'époque les réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, tu as l'impression qu'en fait, on est dans un monde qui est inconnu. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien pour éclairer l'avenir et on sait pas du tout dans quelle direction aller. Et puis en plus, la différence majeure qu'il y a quand même avec cette époque de la transition numérique, c'est que tu avais quand même quelques grosses boîtes qui avaient nommé des Chief Digital Officers, des CDO, qui étaient un peu des dieux que tout le monde regardait parce qu'ils indiquaient la voie et testaient des choses nouvelles. Là, on va faire quoi? On va nommer des chief prompt officers dans les boîtes. Tu vois, c'est plus compliqué à appréhender, en fait, quoi.
Oui, enfin, si ce n'est que les CDO ont eu une durée de vie assez courte. Donc il y avait un petit côté un peu entre la mode et le fait de dire qu'on est dans la tendance, hein, c'est un peu comme les Shadow Comex. Mais pour autant, des CDO, j'ai plus l'impression qu'on en entend beaucoup parler.
Maintenant, tu as des chief data officers. Mais moi, je vais être plus optimiste, en fait, parce que c'est vrai que quand on est en down, quand on est en descente, effectivement, on voit les choses, on dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve ça génial parce que on est arrivé au bout d'un système, il va falloir réinventer énormément de choses. Ça laisse beaucoup de place, en fait, à ceux qui vont penser différemment. On le voit déjà avec des boîtes qui commencent déjà à intégrer l'IA d'une façon intéressante, qui commencent à intégrer enfin, la convergence vraiment de plusieurs révolutions technologiques, comme ce qui était évoqué par AmiWeb. Donc, c'est pour moi vraiment. AmiWeb a parlé de la génération T, génération transition. Il y a ce côté transition qui est très forte, et pas que technologique, parce que un des défauts qu'on peut avoir quand on travaille dans le digital, c'est qu'on donne plus trop de poids, on donne plus de poids au digital qu'au reste, qu'à l'humain. Et pourtant, c'est hyper important de voir ce digital d'une façon globale, côté usage. ChatGPT, ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation usage qui va nous forcer à réinventer le travail, notre quotidien, potentiellement les relations aux autres. Il y a plein de choses à réinventer, c'est génial. Mais effectivement, il faut passer l'étape du constat de « Ouh là là, c'est plus comme avant », parce que là, c'est vrai, c'est plus comme avant.
On va dire que la transition paraît plus violente par rapport à la transition digitale dont tu parlais, Marion, quelques instants, que j'ai bien vécu aussi, qui finalement déjà paraissait vite, ou rapide, pardon, alors que finalement, ça a mis une dizaine d'années, on va dire. Là, la sensation que ça donne, si je comprends bien, c'est cette dimension de claque dans la gueule. C'est-à-dire, en gros, là, il y a un truc qui est allé plus vite que prévu. Ou tout le monde, ça faisait longtemps peut-être que c'était là, mais d'un seul coup, ça y est, les planètes s'alignent et il y a un effet d'accélération. Tu citais AmiWeb, donc la futurologue bien connue, qui parle de flywheel effect. Donc cette dimension à ce coup d'accélération soudaine, hein, un peu comme si on était dans un manège, un roller coaster, cette accélération-là, et il faut bien s'accrocher parce que ça va secouer. Et c'est vrai que les phases de transition sont toujours complexes. Est-ce que vous avez la sensation que, au-delà du fait que ben, tout le monde est un peu perdu, mais tout le monde essaie de retrouver justement une direction, est-ce que vous avez la sensation que justement les promoteurs de ces solutions, qui sont peut-être demain les nouveaux GAFAM d'ailleurs, je pense à OpenAI, mais pas que bien sûr, est-ce que ces acteurs-là, quelque part, ils soufflent pas un peu aussi sur les braises pour accentuer cet effet un peu d'accélération et de les gars, ça va aller vite, hein, sachant qu'il y a quand même une réalité dans le phénomène. Marion, tu as cette sensation-là ou pas, hein?
Oui, et en même temps, alors après, t'as toujours cette chose avec les patrons des GAFA, et c'est vrai que l'intervention de Peter Deng, qui est le head of ChatGPT chez OpenAI, était à cet égard assez parlante. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour défendre leur projet, qui est un projet que moi je trouve assez naïf et pas totalement juste, mais qui est de dire on est là pour libérer l'humanité, quoi.
Oui, enfin ça c'est pour se donner une direction et essayer de... On la connaît l'histoire, ils sont bons en
C'est
storytelling,
la
vraiment.
philosophie Silicon Valley, quoi. Donc on a eu droit à un cours de Peter Deng sur l'IA et ChatGPT par ailleurs sont des outils merveilleux pour libérer l'humanité, redonner tout le
Make the world a
potentiel.
better place.
Exactement, exactement.
Comme on dit dans la série Silicon Valley, que je ne peux que vous pousser à aller regarder
Elle
d'ailleurs.
est
Ça,
géniale.
je pense que... Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais on est dans, vraiment dans cet état d'esprit-là.
Clairement, mais après, je pense que l'accélération, elle n'est pas feinte, parce que tu parlais de la flywheel de cette chaîne en réaction, c'est-à-dire que plus il y a d'expérimentation, plus il y a de data et plus ils peuvent accélérer. Et donc là, on est vraiment dans une accélération qui est réelle. Tu as quand même des cas d'usage que peut-être Emmanuel pourra détailler un peu plus, qui ont été détaillés par Azure et par Microsoft, qui était franchement assez intéressant. Mais moi, je pense que c'est pas fin, il y a une vraie accélération. Maintenant, je pense que comme dans toute phase d'accélération, il y a un moment où il faut fermer les yeux, se recentrer sur soi et effectivement s'interroger fondamentalement sur dans quelle direction on veut aller, comment on veut y aller et où est-ce qu'on est pour pouvoir démarrer. Et je pense qu'il faut surtout s'interroger sur comment démarrer.
Emmanuel, justement, est-ce qu'il y a des cas intéressants que tu as pu identifier, que tu as pu entendre dans les différentes conférences que tu as pu suivre?
Ce qui est sûr, en fait, c'est que là, il y a la revanche du hardware et l'émergence forte des hyperscalers. Alors, les hyperscalers, c'est quoi? Ce sont les entreprises qui proposent des services dans le cloud. Parce qu'on parle des nouveaux OpenAI, Mistral, Anthropic, etc. Sauf que derrière, il y a les hyperscalers qui sont souvent les GAFAM. Faut pas se
Donc
planter par rapport
Azure,
à ça.
AWS
Exactement.
notamment.
Exactement. Et Google aussi
Bien
qui rentre dans
sûr.
la danse avec son IA et surtout ses services cloud qui sont un peu à la traîne par rapport aux autres, ils s'attendaient à mieux, mais quand même, ils sont là, ils sont puissants. Et donc en fait, c'est un peu les papas des nouveaux entrants, en fait. Ils les financent, pas se planter, hein. OpenAI, c'est vraiment Microsoft pour défoncer Google, hein, Gemini. En plus, ce qui est terrible, c'est que la base de la technologie ChatGPT, ce sont les Transformers. C'est quand même Google, hein, qui en a beaucoup permis l'émergence en 2017. Et en fait, c'est pas eux qui en bénéficient.
Ah ben Google nous fait une Kodak, on va être très clair, hein.
Et nous fait
Kodak,
voilà.
l'inventeur de la photo numérique, qui n'a jamais développé la photo numérique et qui en est mort.
Alors, pire, ils avaient la photo numérique. C'est les premiers à avoir inventé l'appareil photo numérique. Et le mec qui a inventé ça, il a été bloqué par le top management qui a dit non, 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 c'est pas notre modèle économique, c'est pas ce qu'on fait. Donc voilà, c'est ça qui est très impressionnant en fait, ce qui se passe. Donc ça s'accélère, il y a des use cases en cours, c'est balbutiant pour l'instant. Il y a beaucoup de promesses, peu de vision, et Marion a raison, c'est que on en parlait tout à l'heure, c'est le why. C'est si l'entreprise est bien centrée, elle avance. Et vraiment, les entreprises ont besoin de vraiment se redéfinir pour savoir pourquoi elles font ce qu'elles font, en fait. Donc c'est marrant de voir toutes ces évolutions-là, de voir comment Microsoft peut pousser les use cases, alors d'une façon très opérationnelle au niveau de l'IA, pour générer les contenus, les designs, ce qui va redéfinir des industries créatives. La traduction, ça va être revu aussi. Bref, l'automatisation des process aussi, ça va être un énorme sujet. Et on peut considérer que l'IA va créer des emplois, a priori, d'après ce qu'on voit avec des nouveaux métiers comme le digital, a créé beaucoup d'emplois aussi.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que lorsqu'on entend ça, c'est un peu les cols blancs qui sont en panique, en se disant qu'en fait, on leur avait vendu que l'intellect, c'était ce qui allait les protéger, parce que les cols bleus, hein, qui sont sur les chaînes de montage, ils ont déjà été décimés pour partie par l'automatisation, la version Charlot, les temps modernes. Mais bon, tu comprends, hein, voilà, c'est des ouvriers, donc bon, c'est pas grave. Et maintenant, d'un seul coup, donc toutes ces personnes-là, dont certaines d'ailleurs n'en ont rien à foutre dans les entreprises, on va être très clair. Il y a des gens qui sont des arnaqueurs, des arnaqueuses, et qui sont là depuis longtemps et qui se disent, ça se voit pas. D'un seul coup, ils se disent, là, le roi est nu. C'est-à-dire, en gros, là, on va peut-être voir que je sers à rien, et peut-être d'autres vont se dire, comment je peux aussi réinventer mon métier? Des gens qui font très bien leur travail et qui se disent, ah ben là, peut-être que ça va devenir compliqué si je rentre un peu en compétition avec la machine, parce que voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un maelstrom autour de ça? Et donc notamment donc des personnes qui se disaient que, on va dire, la partie intellectuelle du travail était une sorte de protection de leur part, et d'un seul coup, ils se disent que tout est possible.
J'ai donné un point et puis je pense que Marion parlera de la mort des juniors après. En gros, les cols blancs sont en risque, sont vraiment en risque. C'est eux qui ont désintermédié, qui ont disrupté les marchés. Et en fait, ils sont en train de se faire disrupter. C'est toujours ce qu'on a dit, c'est que les disrupteurs se font disrupter à un moment ou à un autre. Donc les cols blancs, ils sont en risque, même sur des tâches à forte valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut voir et qui est une différence par rapport à avant. Parce que l'IA est capable de travailler sur des tâches très spécifiques et vraiment à valeur ajoutée. On peut parler du trading ou autre, enfin, y a plein d'exemples. Donc à partir de là, c'est sûr que ça redéfinit potentiellement la hiérarchie des métiers. Peut-être que les métiers manuels vont être revalorisés avec ça. C'est un vœu pieux de mon côté, hein, parce qu'effectivement, les métiers qui ont la plus grande valeur sociale, le plus gros impact social, en fait, ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux rémunérés. On va falloir voir ce que ça donne par la suite.
Apprenez l'ébénisterie, ça peut servir, ou la plomberie. Marion?
Ouais, ou à planter des pommes de terre, au choix. Bah, peut-être.
Justement,
Ouais.
Tiens, je rebondis là-dessus, si tu me permets. On n'a pas, dans cette période troublée, est-ce que A6SW, on a parlé d'environnement? Parce qu'on va être très clair, l'IA, la jeune IA, c'est quand même des bouffeurs de ressources. En parlant justement, je ne parle pas que d'électricité, on peut parler aussi de serveurs, enfin ça va avec. Hein. Et tout ça, est-ce que c'est pas une fuite en avant, 3 gigas par semaine? Est-ce que finalement un jour il va peut-être falloir qu'on se dise qu'il faudrait un peu de sobriété dans tout ça, parce que sinon ça risque de disjoncter, et il va falloir retourner planter des patates?
Ah, tu as une forte dimension solutionniste, hein, clairement, avec l'idée que finalement la technologie va permettre d'être moins consommatrice parce qu'on va inventer des puces qui sont plus performantes, qui consomment moins d'énergie, etc. Moi, je t'avoue que ça a été aussi un facteur des éléments de pic de stress en me disant, mais on consomme tellement d'énergie là que si on continue comme ça va devenir vraiment compliqué. Après, il y avait un track, un climate change, qui n'était pas hyper fourni cette année, j'ai trouvé. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me libérer pour aller voir des conférences parce qu'en fait, ils ont vraiment programmé les conf climate en face de très gros porteurs sur des sujets très, 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 très attractifs. Et les quelques confs que j'ai pu aller voir n'étaient pas franchement folles. Un point que j'ai trouvé intéressant et qui me permettra de faire le lien avec les juniors face à l'IA, c'est la notion de climate quit, que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire de dire bah, finalement les juniors quittent de plus en plus leur entreprise parce qu'elles n'ont pas elles n'alignent pas les actes et les paroles en matière d'engagement sur la transition climatique. Et donc ça semble être un sujet qui grandit aux États-Unis, donc enfin, peut-être aussi un point de vigilance aussi là pour les entreprises qui vont devoir se bouger. Mais après, clairement, les États-Unis, on sent qu'ils sont très très loin. Hein. J'ai pas entendu une seule fois le mot bilan carbone dans les confs climate change où je suis allée de la part des entreprises.
Oui, c'est que si on commence à leur dire qu'on va arrêter les voitures, effectivement, là c'est la révolution. Il y a des habitudes à changer et les habitudes, c'est très compliqué. On va dire dans tout ce que vous avez pu voir, entendre, est-ce que vous avez la sensation que, au-delà donc de cette frénésie autour de la générative AI, donc l'IA générative, au-delà de tout ça, est-ce que vous avez la sensation aussi qu'il y a quand même, comme le disait d'ailleurs Ami Web, des sortes de convergences entre donc l'IA, très bien, le traitement, les LLM, les successeurs, hein, ce qu'on appelle les LAM, comme Large Action Models, donc ce qui veut dire qu'on connecterait du software, du hardware, et puis voire même peut-être de l'humain. Est-ce que tout ça, vous avez l'impression, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, vous avez vu, c'est une tendance qui est un peu de fond, ou c'est plus une extrapolation actuelle?
Alors moi j'ai deux exemples par rapport à ça, potentiellement sur la convergence. Ami Web avait parlé des trois révolutions qui convergeaient. IA, tout ce qui était autour des objets connectés et les biotech. En gros, c'est ce qu'on a appelé avant la convergence NBIC, NBIC, nouvelle technologie biologie informatique et cognitif. Les deux exemples que j'ai, c'est les lunettes Apple Vision Pro, en fait, qui ont
Le
été
casque de
testées.
ski, hein, pour l'instant.
Moi, j'étais très, très sceptique sur ça, et en fait, c'est pas des lunettes. C'est un spatial computer en fait. Et en fait, ça ouvre beaucoup de possibilités, bien plus que des lunettes classiques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Et ce qui était montré par Mi Web et qu'on voit aussi sur d'autres casques, c'est tout ce qui est autour de la détection des mouvements de l'iris. C'est-à-dire que ça va te permettre de rattacher des émotions à l'iris et donc de proposer des expériences différentes potentiellement. Donc il y a un mélange aussi avec de la biologie de plus en plus. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est les robots avec de l'IA. C'est notamment Huawei qui dit que l'IA ne peut pas apprendre comme les humains tant que l'IA ne peut pas se déplacer dans le monde comme les humains. Et vous avez aussi des boîtes comme Samsung qui ont inventé une sorte de peau artificielle. On peut imaginer donc des robots qui soient à la fois de l'IA, donc du software, du hardware et aussi du biologique pour pouvoir collecter de la data. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est pas la science-fiction, ça c'est vraiment le monde de maintenant. C'est vraiment une édition qui était ancrée dans le présent, contrairement aux autres éditions. Et des fois, peut-être que ça fait du bien de se reposer un peu et dire, oh là, ça va trop vite, on va prendre un peu de recul par rapport à ça, avant de repartir dans le roller coaster.
Marion, tu disais tout à l'heure que tu as cité la question du technosolutionnisme. Est-ce que SXSW, c'est peut-être aujourd'hui, enfin, comme vous avez le recul tous les deux de plusieurs éditions, c'est l'endroit pardon, justement un peu du technosolutionnisme libertarien à l'américaine, ou est-ce que vous avez peut-être l'impression que pas tant que ça, vu de l'extérieur, ça peut donner cette sensation-là?
Non, South By, c'est un endroit de débat. Alors c'est vrai qu'après, bah, les technosolutionnistes sont souvent ceux qui font un peu sale compte, mais c'est pas complètement vrai. AmiWeb a vraiment poussé un cri d'alarme hein, lors de cette séance, de cette session, et on a mieux compris a posteriori pourquoi elle avait offert ses masterclass. Certains considéraient qu'elle avait fait un hack de South By. Hein. C'était vraiment justement pour aider les organisations et tous les participants à capter sa méthodologie pour essayer de justement de changer la manière de penser leur stratégie d'entreprise. Tu as aussi des... Moi, c'est ce que j'adore à South By, c'est que tu as des contre-voix, tu as des choses différentes. Il y a eu une conférence absolument géniale du docteur Joy Boulamwini, qui est une chercheuse du MIT, et qui, elle, pour le coup, a fondé ce qu'on appelle la Justice Algorithmic League, qui lutte justement contre les biais discriminatifs dans les algorithmes. Donc non, c'est vraiment un festival de la convergence. Tu as des gens qui vont venir et qui vont confronter leur point de vue, leur manière de penser la technologie, les usages. Et par ailleurs, cette édition s'est conclue sur les mots de Hugh Forrest, qui implorait vraiment les États à réguler la technologie. Et il a prononcé ces mots qui étaient assez forts, hein. On n'a plus les moyens de refaire les mêmes erreurs que celles qu'on a faites avec les plateformes sociales. Donc c'est pas si technosolutionniste que ça.
Régulation, le mot est lancé. On se fout de la gueule de l'Europe et de l'IA Act. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Est-ce que, justement, dans un pays comme les États-Unis, qui n'est pas un pays qui aime beaucoup la régulation, quoique ça dépend les domaines, cette question de la régulation, d'un seul coup, c'est un truc qui paraît... qui paraît pas stupide, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ou juste qu'on a entendu à la fin, ou est-ce que c'est une question qui se posait? Est-ce qu'on parle typiquement de l'initiative de l'Europe sur le sujet aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu?
Oui, le RGPD fait référence maintenant au niveau international. Les Américains voient bien le problème, c'est que même leurs grosses sociétés ne paient pas leurs impôts aux États-Unis. Ça commence à devenir problématique.
Et ça, ils n'aiment pas.
Oui, ça devient problématique. Donc, tout ce qui est... Et le problème, c'est que les GAFAM n'ont plus tellement de contrepoids en face. Les États ont été affaiblis, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc, la régulation, elle est importante. Et puis, on voit qu'en plus, la régulation se fait maintenant par plaque tectonique entre l'Europe, entre la Chine, entre les États-Unis. Donc, oui, la régulation paraît importante pour protéger un certain nombre d'emplois, de visions, de secteurs, d'industrie. Donc oui, c'est un sujet qui est toujours un sujet de balancier, quoi. Quand on va trop dans la liberté, on se dit, oh là, à un moment, il faut réglementer. Quand on va trop dans la réglementation, on dit, allez, on va mettre un peu plus de liberté, on va essayer de casser les silos. Donc c'est un vaste sujet, mais on sent que ça revient, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir face à ces GAFAM et hyperscalers qui sont en train d'organiser leurs propres économies, de devenir aussi puissants que des États, et de pouvoir, en fait... Par exemple, on l'a entendu avant le SXSW, Sam Altman qui veut lever 7000 milliards de dollars pour complètement refondre la chaîne des microprocesseurs, des chips, etc. pour plus être dépendant de Taïwan, entre autres. Ce sont des initiatives beaucoup privées, hein, et pas publiques. Et la réglementation, elle est publique. Donc, vaste sujet à venir, effectivement.
Marion Emmanuel, dans le compte-rendu que vous avez fait, que je vous recommande donc de lire sur la réclame, est-ce qu'il y a des choses dont vous n'avez pas parlé? Parce que vous n'aviez pas la place, vous n'aviez pas le temps, vous n'aviez pas envie. Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait parler maintenant, dont vous pensez qu'il peut y avoir un intérêt, ou que c'est totalement futile, et dont on pourrait parler?
Ouais, il y a peut-être deux choses qu'on évoquait. Il y a quelque chose dont qu'on parle un peu dans l'article et qu'on va compléter sur le marketing. C'est vrai que tu vois, il y avait beaucoup de conférences qui portaient sur l'avenir de, le futur de. Autant en marketing, c'était que la mort de. C'était la mort des réseaux sociaux, la mort du follower, la mort du funnel de vente, la mort, la mort, la mort. Donc là-dessus, il y aura encore des choses à creuser, je pense, et on refera une récit sur ça.
Alors d'ailleurs, pourquoi la mort du follower? Pourquoi la mort du funnel, des réseaux sociaux? C'est quoi cette histoire?
En fait, ça tourne beaucoup autour des nouveaux reach sur les médias sociaux qui font que de toute façon, en fait, c'est plus la question de savoir à qui t'es connecté et donc de qui tu vois les contenus, mais quels sont les contenus que tu likes pour hyper personnaliser les contenus que les plateformes vont te pousser.
Ça, c'est pas
Et donc,
nouveau.
c'est pas nouveau, mais il semblerait que ça ait pris des proportions telles que les créateurs et les influenceurs n'arrivent plus à être visibles de la part de leur communauté. Et donc, ça a été vraiment quelque chose de. J'étais très étonnée hein, de voir des conférences entières sur ce sujet. Et après, bah, t'as la TikTok, en fait, qui était une plateforme que les marketeurs n'arrivent pas vraiment à comprendre, n'arrivent pas vraiment à prendre en main. Toutes les confs qui parlaient de TikTok, enfin, toutes les confs en marketing finissaient par parler de TikTok à un moment ou à un autre et finissaient par parler d'une marque qui semble être la seule à avoir compris TikTok, qui est Duolingo, qui a juste des vidéos avec sa mascotte qui fait des trucs un peu pourris sur TikTok. Donc on sent là aussi que, ouais, c'est encore une fois, les cas d'usage sont difficiles à prendre en main, il y a encore peu de références et donc, bah, effectivement, le terrain de jeu, il est plus maîtrisé.
Peut-être le jour où on va se rendre compte que TikTok n'a pas d'algo, en fait c'est juste un bordel innommable. C'est un truc avec que des randoms à tous les niveaux. Et en fait c'est ceux qui font les trucs les plus cons qui fonctionnent. Donc quand on dit
Exactement.
celui qui lâchera le plus la rampe et qui va être le plus décontracté, qui va réussir à faire un truc, peut-être qu'un jour on va découvrir que c'était ça le secret de TikTok. En fait. Emmanuel, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses, même question, dont vous n'avez peut-être pas parlé? Parce que vous trouviez que ce n'était pas forcément intéressant, mais quand même, ça pourrait être intéressant de le mettre en avant comme un signal faible, ou au contraire, des choses que vous n'avez pas pu développer par manque de place.
Alors, signal faible, oui. Bah, je vais me rattacher un peu à ma. Alors, j'ai des prismes, hein, parce que j'ai des croyances et des partis pris. J'ai coécrit un livre avec Arnaud Winter, qui est dans la French Crew aussi, il y a quelques années, qui s'appelle Humain enfin, redevenir humain à l'ère digitale, où j'expliquais que justement, on avait voulu devenir des robots. On a fait ça très bien, on a appris les choses par cœur et tout, et puis les robots sont arrivés. Et ils ont fait ça mieux que nous, parce que c'est des robots. Et en fait, là, on est en train de se dire, mais en fait, c'est quoi d'être humain? C'est un vrai sujet, on en parlait avec Marion aussi, il y avait beaucoup de conférences sur l'isolation, la dépression, la santé mentale. Les gens sont paumés, mais parce qu'ils ont voulu devenir des robots. Et les entreprises, celles qui sont data-driven, ben, j'attends qu'il y ait un bug de leur côté. Celles qui sont très aides à la décision basées sur les datas, j'attends qu'il y ait un bug pour qu'on revienne à l'humain. Et il y a un des intervenants qui a dit, être humain est à définir. Ben, je suis d'accord avec lui. Et justement, c'est une opportunité fabuleuse qu'on a de développer ce qui fait notre différence par rapport aux machines. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'on nous a appris sur les dernières décennies, quoi.
Ce qu'on nous a appris, c'est d'être productif. Donc, dans la vision, on va dire, dans notre vision européenne de l'Ouest et occidental,
Et d'être un outil de
d'être un outil de
production, en
production,
fait, c'est ça,
effectivement, tout
hein.
à fait.
Une ressource humaine et pas une richesse humaine.
Donc, oui.
Et c'était vraiment, pardon, mais c'est vraiment aussi toute la partie d'une conférence de Yann Bicraft qu'il a appelée Two Billion Dollar Team, où lui, il professe la fin des organisations fondées sur les métiers, justement, et en disant, mais en fait, l'IA n'est pas juste un avantage compétitif, c'est un changement complet de paradigme, et il faut que les entreprises repensent leur framework et leur process, parce qu'en fait, on continue à travailler, à se monitorer, à se mesurer sur des indicateurs qui datent de la révolution industrielle. Et je trouve que là aussi, c'était assez puissant et ça nous oblige à réfléchir. C'est ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que finalement, Le sujet, ça va plus être tellement d'apprendre forcément un métier, d'être hyper bon dans son expertise, mais de s'étaler encore plus en horizontalité pour pouvoir se connecter aux expertises et aux compétences des autres, tout en étant voilà, backupé par des assistants, par une IA qui va nous permettre aussi de gagner en productivité, mais qui peut-être peut nous permettre de travailler de manière un peu plus plaisante. C'est point d'interrogation pour moi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut devenir, faut devenir plus généraliste, il faut être capable de se connecter aux autres, il faut redévelopper sa curiosité. Alors qu'on nous, justement, pour revenir à ce que disait Emmanuel juste avant, notamment dans les entreprises, on a tendance à se mettre, en fait, ou à nous mettre dans des cases productives, on va dire, pour justement, qui font d'ailleurs qu'au final, on arrive à la notion de bullshit job, hein, c'est-à-dire en gros, on sait même plus ce qu'on fait. On nous a tellement mis dans une case que finalement on ne sait même plus ce qu'on fait. Est-ce que c'est ça qui est en train d'être balayé?
Je ne sais pas si ça va être balayé. En tout cas, je pense que les entreprises qui ne bougeront pas sur ce sujet vont devenir de plus en plus rigides et risquent de se pétrifier littéralement. Bicraft, lui, il annonce l'ère des creative generalists, c'est-à-dire effectivement les généralistes qui sont capables par curiosité, par créativité, d'aller au contact de plein de choses, et en plus avec une IA qui leur permet assez rapidement de se mettre au niveau de quelqu'un qui est un peu plus expert, en tout cas de discuter avec lui. Et puis tu as John Medda à côté, qui est au design chez Microsoft, qui était aussi vraiment passionnant, qui lui réinsiste sur les compétences humaines, et puis qui dit bah, c'est aussi la revanche des penseurs versus les doueurs, et puis c'est aussi, si on rajoute à ça les gens qui savent parler aux machines, eh ben, on va avoir quelque chose qui peut être très puissant, à condition de vraiment se recentrer aussi sur ce qui fait la différence des compétences humaines et des compétences relationnelles.
C'est la revanche des geeks. Mais justement, quand tu dis la revanche des penseurs sur les doueurs, j'ai pas très bien saisi ce point. Pourquoi?
En fait, ce qu'il explique, c'est que grâce aux IA génératives, on a moins besoin justement des super geeks qui savent coder, qui savent fabriquer. On a plus besoin qu'ils sont capables de penser les systèmes, de les challenger, puisqu'en fait aujourd'hui faire du code devient beaucoup plus facile grâce aux IA. Et puis après il rajoute une autre dimension qui sont les talkers, donc les gens qui parlent et qui vont être capables à partir de leur pensée, de leur capacité à designer, à imaginer des choses, qui vont être capables de les prompter ou en tout cas de les demander à une machine, de faire un super brief. Et en fait, ces gens-là vont pouvoir être quelque part les nouveaux dieux du stade dans les organisations et dans le monde du travail, parce que finalement, ils vont pouvoir créer énormément de valeur en étant assez limités en nombre. Et c'était la promesse que faisait Sam Altman en disant bah, finalement, avec GPT, une personne, un solopreneur peut créer une 1 billion dollar company. Bah, finalement, là, si tu commences à agréger des gens qui savent penser, parler aux machines, bah tu peux avoir une billion team assez costaud.
Est-ce que le fait de parler aux machines, justement, est-ce que c'est pas l'antinomie de ce que, justement, on a dans le fantasme de l'IA? En clair, ChatGPT, il met des étoiles dans les yeux parce que on lui écrit un truc en langage naturel et il nous répond quelque chose qui n'a pas l'air complètement à côté de la plaque. Mais en fait, on se rend compte en creusant un peu la chose que finalement, ces machines-là, il faut arriver à leur parler de la bonne manière pour qu'elles délivrent ce qu'on veut. Donc quelque part, est-ce que c'est pas une manière encore plus paradoxale de se mettre dans une case et de se mettre finalement au service de la machine, alors que c'est justement la promesse est de dire, mais justement, ça va libérer la créativité et la machine nous aidera.
Oui, tu as raison. C'est ce que je trouve magnifique, c'est les captchas où tu dois cliquer une case, cocher une case en disant je ne suis pas un robot. C'est toi en tant qu'humain, tu es en train de dire à un robot, je suis un humain. C'est quand même assez fabuleux. Et dans les mots suggérés, faut pas oublier que l'OS mobile de Google s'appelle Android. Donc c'est un mélange d'hommes et de machines. Donc le truc, c'est qu'il faut pas être dupe de ça, effectivement. Il faut qu'on mette la technologie à notre service et pas l'inverse. Si on externalise toutes nos compétences, tout notre savoir, auprès de l'IA, ça va poser un vrai problème. C'était déjà un point il y a 10-20 ans. C'était David Carr qui avait écrit un article sur Est-ce que Google nous rend stupides?
Oui. Je me rappelle.
Ok.
Là, je dis oui parce que je me
Et
rappelle de
c'était
l'article.
super. Le mec est génial. Hein. Le mec était génial. Et il avait raison. Et on se pose la même question avec l'IA. Ce ne sont que des outils. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on considère que l'IA, c'est comme un humain, on fait ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est qu'on attribue l'humanité Ah, une boîte de conserve, il faut quand même arrêter de faire ça. Mais si on ne développe pas notre côté humain, ben on se fait arnaquer en fait par un ordinateur. On a l'impression que l'ordinateur a des émotions, par exemple. Il n'a pas d'émotions, c'est des maths,
Mais justement,
c'est des probas.
est-ce que les acteurs du marché poussent pas ce truc-là? En fait, ils poussent ça pour jouer en fait la carte de la, on va dire de pour baisser, on va dire la barrière à l'entrée ou la crainte que l'on peut avoir. Le paradoxe, c'est que ça peut être un piège. Et il pousse quand même cette notion d'anthropomorphisme, croisée avec le fait que ça vient à la rencontre de tout l'imaginaire et du fantasmatique que l'on a autour des machines de l'IA, qui vont de Terminator à Heure en passant par le charmant enfant du film Intelligence artificielle de Spielberg.
Non, mais t'as raison, il y a une dramatisation où il y a de la câlinothérapie qui est réalisée. On est entre guillemets manipulé par ça, mais on est manipulé aussi par nos fantasmes. Il suffit de pas être dupe. Je veux dire, l'algorithme de. Tu parlais de TikTok tout à l'heure, l'algorithme de TikTok. L'algorithme de TikTok en Chine ou à l'extérieur de la Chine, ce ne sont pas les mêmes versions. Ce ne sont pas les mêmes contenus qui sont poussés. Donc on voit bien, la manipulation, elle existe à tous les niveaux. En elle-même, elle est neutre. Maintenant, quelle est l'intention derrière? C'est ça le point. On passe notre temps à manipuler les gens. Un enfant, les enfants, tu les manipules, effectivement, pour leur bien. Ben là, c'est pareil. Est-ce que les GAFAM nous manipulent pour notre bien? C'est un vrai sujet. Ceux qui maîtrisent, en fait, tout ce qui est autour des neurosciences, ce qui fait notre différence, en fait, ceux qui les connaissent, ce ne sont pas ceux qui nous veulent forcément du bien. Je vous renvoie aux superbes pastilles dopamine d'Arte, où on vous explique comment, en fait, le digital peut être considéré comme du sucre en termes d'addiction, comment les réseaux sociaux ont fait du mal en fait à la démocratie, à la santé mentale. Hein. C'est Hugues Forest hein, qui le dit, on le sait. Mais ce ne sont que des outils. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, il y a des gens qui maîtrisent plus que d'autres. C'est pour ça qu'il faut éviter l'électronisme, hein, le fait d'avoir des gens qui ne maîtrisent pas le digital, parce que ça pose un vrai sujet pour la suite, puisqu'on est dans un monde où le digital se mélange au physique, et donc forcément, bah, il y a des nouvelles habitudes, des nouveaux paradigmes qui apparaissent.
Marion?
Ouais, là, il faut être capable, à mon avis, dans les années à venir, plus que jamais, de gérer l'ambivalence, parce que c'est compliqué, effectivement, sauf encore une fois, aller planter des patates dans la forêt, de pas du tout se familiariser et apprendre à utiliser ces outils et à vivre avec eux, parce que, bah, en fait, à côté, les gens vont le faire, donc on est quand même dans une compétition dans laquelle il faut savoir jouer avec les règles du jeu. Donc pour moi, il faut vraiment s'y mettre, il faut vraiment commencer. Et voilà, je vous invite tous à commencer à prompter, mais à le faire avec raison. Et c'est là où c'est ambivalent. Et je pense que tu vas avoir là encore un écart démentiel qui risque de se creuser entre les populations qui ont le bagage économique, social, culturel pour avoir une vision critique de ces outils et être capable de prendre de la distance, d'éduquer leurs enfants en leur mettant ces outils dans les mains, mais en étant capable de leur offrir quelque chose d'autre à côté qui fait qu'ils vont continuer à développer des capacités cognitives d'esprit critique, de rêverie, d'ennui, de créativité. Donc c'est pour moi, on rentre vraiment dans quelque chose qui va être profondément inégalitaire. N'en déplaise à Peter Deng, c'est un point avec lequel je suis absolument en désaccord avec ce qu'il professe.
Qu'est-ce qu'il professe
Et j'ai
si tu peux nous le repréciser?
bah que ChatGPT œuvre pour le bienfait de
Ah oui, ce que tu
l'humanité,
nous as
qu'il est
dit
là
alors,
pour
oui.
nous empowerer. Enfin voilà,
Non, mais on est d'accord,
c'est
c'est du
un outil
bullshit, on est
magique.
d'accord. Non, bah.
Exactement. Oui, mais c'est dangereux en fait. Pour moi, c'est dangereux de faire croire ça, et c'est dangereux de penser qu'il faut. Je pense beaucoup à Eric Sabin en ce moment, qui est un philosophe, un écrivain que j'ai découvert récemment, mais que je trouve extrêmement puissant. Alors lui, il est très très technocritique, mais il dit quelque chose que je trouve important d'avoir en mémoire aujourd'hui. S'adapter, c'est subir. S'adapter, c'est se résigner, et c'est se soumettre à la technologie. Et donc pour moi, il faut certes apprendre à utiliser ces outils, à vivre avec et à penser le monde avec, mais il faut aussi garder une compétence de criticité vis-à-vis de ces outils et d'être capable de faire à côté. En ce moment, j'ai repris des études, donc je vis des études avec ChatGPT. C'est vrai que c'est un outil merveilleux parce que ça fait gagner énormément de temps et puis c'est un outil qui est assez fabuleux voilà, pour fabriquer tout un tas de contenu, mais même toutes les IA génératives. Mais ça me pose des questions sur ma capacité à mobiliser mes capacités cognitives quand même dans certains cas. Donc il faut être prudent sur ça, je pense.
Emmanuel, pour finir, justement, sur quoi il faut être prudent ou pas?
Eh ben moi aussi j'ai aussi repris les études. Moi j'ai fait un cursus de data analyse validé par les mines de Paris pour comprendre comment ça marchait. et pouvoir débunker en fait tout ce qu'on dit sur l'IA, les algorithmes, etc. Et moi j'ai envie de vous dire, la période elle est géniale. Elle est géniale parce que c'est le bordel. Et quand il y a le bordel, bah, il se passe des choses en fait. C'est l'ordre à partir du désordre. Et donc, nous, dans des environnements comme ça, VUCA ou banni, pour reprendre une autre expression à la mode, alors banni, c'est encore pire que VUCA, ça veut dire fragile. Alors, c'est le B en anglais, en français, c'est fragile, anxieux, non linéaire, incompréhensible. Alors, avec sa bonne chance,
oui,
on va
enfin,
s'en
ça, c'est
sortir
les énièmes
sur ça.
acronymes créés par je ne sais pas qui. Je voudrais connaître, je voudrais trouver l'endroit, les gens. Je veux l'endroit où
Monsieur
il y a des
Banni,
gens
c'est Monsieur
qui
Banni, je pense.
trouvent ces magnifiques, on va dire, acronymes à chaque fois. Je suis assez jaloux de cette capacité.
Alors moi j'ai connu Madame Vucard, mais je ne connais pas Monsieur Banni. Monsieur Banni, c'est confidentiel, hein, son identité. Mais effectivement, non, je suis d'accord avec ça. Simplement, il y a des choses qu'on crée, un sentiment d'urgence, un sentiment de peur, etc. L'idée, c'est simplement d'être bien ancré soi pour se projeter correctement dans la suite et de vraiment, encore une fois, développer le côté soft skills, tout ce qui nous importe, tout ce qui est important pour nous en tant qu'humains, ce qui va être toutes nos compétences de savoir-être. On a la possibilité d'avoir des scénarios très positifs avec les technos qui arrivent. On a cette possibilité-là. Est-ce qu'on va la saisir? Ça, c'est un vaste sujet. Le facteur humain est très complexe. Mais en tout cas, c'est une période qui est complètement délirante, fascinante, pas du tout reposante. Ça, on est d'accord. Et l'idée, c'est d'arriver à faire s'aligner, on va dire, le progrès technologique et le progrès social. Ça nécessite une volonté. Il y a, dans les workshops qui étaient organisés par AmiWeb, il y en avait quatre. Et il y en avait un qui était sur la création des scénarios pour l'avenir. Et c'était hyper intéressant parce que, en fait, on faisait des scénarios, on va passer la méthode. Mais en gros, le scénario, le premier scénario qu'on a fait en 30 minutes, guerre nucléaire, on va tous mourir parce que la guerre, c'est possible et on peut la gagner. Et là, l'ambiance dans la salle, c'est. Les gens n'arrivaient pas à respirer. Et là, elle dit, bah, je vous proposer maintenant un nouveau scénario. Et elle part sur un nouveau scénario. Et dans ce scénario, bah, on arrive à travailler ensemble et à coopérer. Elle nous dit, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Eh bien, on dit, mais elle a raison, c'est en fait, l'optimisme nécessite l'action. Si on fait rien, on va dans le mur. Si on fait quelque chose, ça peut bien se passer. C'était hyper intéressant de voir ces scénarios-là. L'optimisme, en tout cas le réalisme ou la volonté de faire bien et de faire d'une façon durable, nécessite l'action. Donc là, le seul message, c'est vraiment la phrase qui est en dessous du titre, dans l'article de la réclame, qui est commencer quoi. Commencer par n'importe quoi, mais commencer pour pouvoir faire bouger les choses.
Commencer. Tiens, j'ai une question subsidiaire pour
Ouais.
finir. Est-ce que justement, vous avez la sensation qu'il y a des gens qui commencent à se dire que les technologies vont trop loin et que peut-être il faudrait être un peu technosceptique, voire
Bien
techno, on
sûr.
va dire, comment on pourrait appeler ça, je cherche le terme,
Techno-absent?
techno-abolitionniste. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui pourrait commencer à voir ou à pointer son bout de son nez? Parce que tout simplement, on pourrait imaginer que des gens commencent à dire, ben non, en fait, j'en ai marre. J'ai pas envie que les technos me prennent ma place. J'ai pas envie que d'être piloté par un algorithme. J'ai pas envie que les services publics deviennent juste un chatbot avec une IA qui me réponde. J'en ai marre. J'ai pas envie de ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être un scénario? Tu parlais de scénario, Emmanuel. Est-ce que ça pourrait être un scénario?
Ouais. Alors, s'il y a une onde électromagnétique qui arrive et qui fait tout péter, effectivement, on va être sans les technos. Ce que je veux dire, c'est que évidemment qu'il y a ça, et heureusement qu'il y a ça. Il faut surtout pas que tout le monde pense comme les gens dans la Silicon Valley ou ailleurs, fassent ce qu'on appelle du dataïsme, la culture de la data, le culte de l'IA. Faut arrêter ça. Justement, on a l'opportunité de développer notre côté humain, faisons-le. Maintenant, effectivement, qui a le pouvoir de faire bouger les choses, c'est un vrai sujet. Moi, ça me paraît normal. Ce que tu évoques, c'était le ludisme, enfin, on va passer ça, mais quand il y a des grosses ré révolutions comme ça, il y a forcément des mouvements contre, parce que l'humain, c'est toujours pareil, s'il y a du blanc, il y a du noir, etc. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, il va falloir ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Moi, je pense que ça existe déjà dans toutes les communautés qui sont très sensibles au sujet de l'environnement et du climat. Vous avez déjà des gens qui ont basculé en no-tech, hein. Et c'est pour ça que j'ai blagué à deux reprises sur le fait d'aller cultiver des pommes de terre. Mais je m'interroge quand même sur le fait que tu as peut-être une partie de la population qui, dans les années à venir, contrainte ou pas, par contrainte ou par choix, vont reculer dans des zones qui seraient des no-tech zones. Peut-être même juste pour aller se reposer le cerveau, de temps en temps, ça nous ferait du bien.
Ben voilà, tout simplement, ça peut être une bonne idée. Parler à des vrais gens et arrêter de parler à des IA. Ça peut être une idée pas bête du tout, à voir. On verra si c'est une tendance ou pas. Peut-être que ce soir, aujourd'hui, hein, quand nous enregistrons ce podcast, eh bien, nous avons peut-être inventé quelque chose. Allez savoir qui, peut-être, sera ensuite un sujet traité dans la SXSW. Allez savoir. Bref, dans tous les cas de figure, merci à vous deux. De ce retour d'expérience que vous avez pu nous donner. Je vous rappelle, à vous qui nous écoutez, que vous pouvez lire l'article du French Crew sur le site de la réclame. Vous cherchez la réclame SXSW 2024, vous trouverez l'article qui s'appelle Face à l'IA, les entreprises sont en pleine gueule de bois. Merci à vous deux, de nous avoir éclairés, de nous avoir donné des éléments de lecture, justement, au sein des éclairs du numérique. Ça tombait bien, vous étiez bien à la bonne place. À vous qui nous écoutez, eh bien, nous vous remercions aussi. N'hésitez pas à aller écouter un des 160 autres épisodes que nous avons pu faire. Si vous n'avez rien à faire, hein, justement, ben faites-vous plaisir, allez écouter un épisode, vous verrez, il y a toujours un truc intéressant à écouter. Notamment, tiens, une dystopie que nous avons fait, une prospective dystopique que nous avons fait sur Elon Musk, et comment, si on se met dans quelques années en avant, et ben comment on n'a pas vu qu'en fait, il avait fait une toile d'araignée et que tous les points qui se connectent donnent une vision du monde. Donc allez l'écouter, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles aussi sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou aussi un commentaire, ça nous fait plaisir, ça nous fait remonter dans les classements. Bref, voilà, ça permet de quelque part rémunérer notre travail, qui n'est rémunéré que par ça d'ailleurs, que nous faisons moi-même, Fabrice Appelboing et Bertrand Lenôtre. Merci à vous deux et à très bientôt pour un prochain épisode des Éclaireurs numériques.
Merci Damien.
Les Éclaireurs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Appelboing. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur leséclaireursdunumérique.fr.